RMC les grandes gueules, les GG et vous.
Le GG, vous, donc, c'est à cette heure-ci, bien sûr, les grandes gueules qui vont répondre à vos interpellations. Puisque depuis 9h ce matin, vous avez pu tenir des propos sur ces sujets qui font l'actualité, qui font société, comme on dit, et notamment Zora Habitant, puisqu'on a parlé de trafic de drogue aujourd'hui, de ses parents de Saint-Denis qui font une chaîne humaine pour interpeller les pouvoirs publics. Donc, extrait de Zora, s'il vous plaît.
Moi, j'en appelle à tous les parents de France, partout où ils sont. Faites des chaînes humaines, faites du bruit pour les pouvoirs publics, parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Ce n'est pas quelques dealers qui doivent continuer de faire la loi et de pourrir la vie de l'ensemble des habitants des quartiers populaires. Parce que les gens ne savent pas que la drogue, en dehors du fait qu'il y a le guetteur, en dehors du fait qu'il y a celui qui vend, etc., il y a des familles décimées, il y a des parents qui souffrent.
Nous sommes avec Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alexandre. Allez-y, je vous laisse opérer avec Zora, si je puis dire.
Bonjour. Alors, tout d'abord, c'est un plaisir de passer à l'antenne, parce que je vous écoute depuis bientôt 10 ans, depuis que j'ai commencé à travailler avec un ancien dans la menuiserie. Mm-hmm. Donc, c'est un réel plaisir de vous rencontrer, de vous parler. Et donc, oui, j'écoutais ce matin. Alors, j'espère que mes propos ne seront pas crus et trop méchants, mais juste j'entendais ce matin par rapport à tout ce qui était problème de drogue dans les quartiers, tout ça, par rapport à la chaîne humaine, pour reprendre le propos. Moi qui ai grandi dans un quartier d'Orléans, qui est quand même assez gros, qui est connu pas mal tout ça, sans jamais vraiment être dedans, je pense que c'est pas réellement intervenir en faisant une chaîne humaine, en essayant de faire quelque chose par rapport à ça, que ça changera quelque chose en fait. J'entends par là que moi j'ai jamais été vraiment touché à la drogue parce que mes parents m'ont toujours ne m'ont pas dit c'est mal, faut pas toucher, mais plutôt m'ont prévenu des côtés néfastes et ils m'ont toujours prévenu que si je faisais ça, je touchais, en fin de compte, ça pouvait me faire plus de mal qu'autre chose, mais sans vraiment m'interdire à faire les choses. Ils m'ont jamais interdit
à sortir
avec mes copains.
C'est pédagogie et éducation, quoi, en fait.
Voilà, ça, c'est tout vient de l'éducation. Moi, aujourd'hui, j'ai deux filles. Ça veut dire que demain, si jamais elles me disent, papa, je fume, papa, j'ai ci, j'ai ça, je serais pas là à les interdire parce que je ne pourrais pas être derrière elles. Et au contraire, j'ai vu plus d'un de mes amis qui, souvent, les parents étaient très stricts, que c'était les pires. Quand on grandit dans un quartier, c'est pas en délaissant un enfant qu'il va devenir catastrophique.
Vous préférez l'éducation. Ouais, vous préférez l'éducation à l'interdiction, quoi, à la radicalité de l'interdiction. Zora Habitant.
Mais Alexandre, je comprends tout à fait. C'est la situation idéale. Moi, j'ai eu deux fils, et ma première obsession et mon obsession continue, c'est qu'ils ne trempent pas l'un dedans, parce qu'habitant un quartier populaire. On est livré à ça. Un jour, mes enfants avaient presque 25, 27 ans. Pour se marrer, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez été... on vous a proposé de vendre de la drogue, etc. Ils m'ont dit, mais maman, tous les jours. Bon, voilà. Donc, j'ai été vigilante, moi, personnellement. Mais dans toutes les familles, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, tous les parents ont pas une prévention aguerrie, acharnée, pointue, etc. Il y a des parents qui... sinon, ça se saurait. On n'est pas tous égaux face dans l'éducation, donc c'est compliqué. Donc à partir du moment où dans une cité on a 50, 100 mômes ou 100 jeunes ou 100 jeunes adultes qui dealent et qui proposent de la drogue à des plus petits et qui font et qui utilisent des petits pour faire les guetteurs, etc., on doit sévir et on doit punir pour pouvoir épargner le reste de la population et l'empêcher d'être otage dans le quartier de ce fléau.
La réponse de Zora. Première interpellation dans le GG et vous. Suite du GG et vous dans un instant, Alexandre. À bientôt. Bonne journée. Suite du GG et vous. Christine avec Thibaut Langsad pour parler chômage, indemnisation. Extrait de Thibaut d'abord.
En France, si on veut toucher son chômage, c'est 4 mois travaillés sur une période de 28 mois. Et à partir de là, on a une indemnisation chômage.
Pendant combien de temps?
Pendant 2 ans. Ouais. En moyenne. Et quand on regarde les autres pays européens,
on est plus généreux.
C'est un an en Allemagne. Pour avoir son chômage, il faut au moins avoir travaillé un an. Et après, il y a des subtilités qui fait que on a des droits rechargeables.
Oui, c'est peut-être ça qu'il faut revoir.
Mais le gros, l'assurance chômage, c'est bien évidemment cette problématique sur les contrats courts.
Christine, bonjour. Bonjour Christine.
Oui. Bonjour Christine.
Bonjour.
Allez-y, Thibaut vous écoute.
Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à Zora, j'apprécie particulièrement.
Oui, vous la connaissez
bonjour,
pas.
Bonjour Monsieur Langsad. Je crois que vous êtes vice-président du MEDEF.
L'ex.
L'été. qu'il a été. Bon, je pense quand même qu'à ce titre, c'est navrant que vous assaignez avec conviction des contre-vérités comme ça. Non, quand on a travaillé 4 mois, on n'a pas droit à 1 an d'indemnisation. On a droit à 4 mois. Si vous travaillez 7 mois, vous avez droit à 7 mois. Voilà, donc je pense que vous avez fait une grosse erreur, et puis c'est pire, parce que vous l'avez faite devant des millions de gens, qui vont croire que finalement la vie est belle au chômage, quoi. Donc c'est un petit peu dommage.
Thibault Langsade, il a rectifié.
Je vais répondre. Non, mais j'ai dit une connerie. En fait, compte, j'ai contracté. Oui. L'expression, qu'est-ce que j'ai voulu dire, mais qui s'est pas retraduit par mes pensées, c'est que au bout de 4 mois, vous pouvez, quand vous, sur une période de 28 mois, vous pouvez commencer à toucher votre chômage.
Oui, oui, mais donc quand on est d'accord sur ce point. Si c'est M. Marshall ou M. Truchot vous ont demandé pendant combien de temps, vous avez dit en moyenne 2 ans.
Non,
donc
mais
ça laisse à penser que.
Non, c'est là où j'ai dit une connerie, permettez-moi, voilà. et je le reconnais. En revanche, ce qui peut se passer, notamment dans
c'est
l'ouverture des droits. Et ce qui se passe dans la permittence, c'est que vous avez beaucoup de demandeurs d'emploi qui commence par une période de 4 mois et qui après alterne, et ceci peut durer 2 ans.
Oui,
et
alors
c'est ça le sujet. Donc j'ai fait un raccourci probablement, et je m'en excuse, c'est une connerie, mais la problématique de la permittence, c'est qu'on a des durées d'indemnisation et qui d'ailleurs vont bien au-delà des 2 ans d'indemnisation.
Christine. Oui, parce que vous rechargez vos droits.
Exactement.
Voilà, mais là où je pense que, quand vous parlez de permittence, je pense que vous êtes plutôt, vous, favorable à un plafonnement de l'indemnisation, parce que si on touche plus d'un SMIG avec ce que vous appelez la permittence, c'est que le montant mensuel de ce que Pôle emploi vous versait avant était déjà supérieur au SMIG.
Alors,
si vous touchez 1500 euros, par exemple, net au chômage, c'est que votre salaire moyen précédent était aux alentours de 3000 euros, on va dire. Si vous faites l'effort d'aller travailler, que vous touchez un salaire de 25 à 30% inférieur à votre indemnisation, c'est quand même normal que Pôle emploi vous verse le complément, alors que vous laissez entendre que finalement, il faudrait plafonner à 1000 euros.
Non, c'est pas ce que je dis. En revanche, si vous voulez mon sentiment personnel, c'est que je pense qu'il faut indemniser beaucoup mieux le demandeur d'emploi, mais sur une période beaucoup plus courte. Autrement dit, si on avait une assurance chômage qui globalement vous maintient un niveau de rémunération très fort, voire même le même niveau de rémunération, mais sur une période plutôt de 12 mois, ce serait probablement beaucoup plus motivant et décapant pour reprendre son emploi.
Voilà, ma chère Christine, la réponse de Thibault. Merci de l'avoir interpellé. Ça lui a permis de rectifier, Christine.
Merci, Christine.
Voilà. Vie, Christine. Merci, à bientôt.
Quel est votre métier, Christine?
Ah bah écoutez, moi je suis comptable et en même temps je suis gérante de société et présidente d'une autre société.
Donc bravo,
je sais un petit peu de quoi je parle.
Sujet, hein.
Félicitations, ma chère Christine. Bonne journée.
Merci.
À très bientôt sur MC dans les GG. Aujourd'hui, on a eu cette discussion sur la chaîne humaine de parents en Seine-Saint-Denis pour combattre le trafic de drogue. Il y a eu une interpellation il y a quelques instants pour Zora Habitant. Nouvelle interpellation cette fois pour notre médecin généraliste, Jérôme Marty. Donc on te réécoute, Jérôme, et ensuite tu en discutes avec Christine, Paris 10e.
T'as un problème d'éducation autour. Et là, t'as un problème d'abandon. Là, t'as un problème typique d'abandon de la République du quartier.
C'est bien sûr.
Ça foisonne et ça se développe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu mettre d'argent dans ces quartiers, qu'on a ghettoisé. Te pose la question d'une dépendance ou d'une drogue de classe sociale aussi. Tu as du cannabis dans ces coins-là. Tu n'en as pas forcément dans le 16e.
Catherine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Oui.
Bonjour.
Allez-y, Catherine.
J'appelle parce que moi j'ai été professeure à Neuilly pendant 20 ans et que j'ai vu de la drogue devant le lycée à peu près tous les jours, vers 4h30. Et je voudrais qu'on arrête de dire que les problèmes sont des problèmes liés à l'argent. Les problèmes sont des problèmes de société. Et là, si vous voulez, bien sûr que dans les quartiers pauvres, on a les gamins, etc. Mais il y a bien forcément aussi, à Neuilly et dans le 16e, des gens qui organisent ce trafic de drogue. Ce n'est pas seulement dans les quartiers pauvres.
Alors, Jérôme Marty.
Non, mais nous sommes d'accord là-dessus. C'est vrai qu'il y a peut-être ma langue à fourcher où je ne me suis pas exprimé, mais il est évident que du cannabis ou de la drogue, il y en a sur tout le territoire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les dégâts ne sont pas forcément les mêmes, la capacité des parents à expliquer n'est pas forcément la même, la présence des parents n'est pas forcément la même, l'abandon de territoire n'est pas la même, et le niveau de chance n'est pas le même. Alors je dis pas que c'est moins grave, la drogue est un fléau, c'est un fléau dans le 16e, dans le 15e comme dans les banlieues de Paris ou des autres villes, c'est évident, mais la chance ou la capacité des jeunes à se sortir de ce fléau est certainement plus importante dans les quartiers dits un peu plus stables ou aisés économiquement que dans les quartiers pauvres.
Alors. Oui, je suis d'accord avec vous. Cependant, je vous rappelle ce sondage qu'on avait fait au lycée. Dans une classe de seconde, en 2006, 75% des élèves avaient touché la drogue en 2006. Et donc, moi, je pense qu'il faut traiter le problème de façon générale. Au Canada, où je vais très souvent... On a maintenant de la drogue en vente organisée par l'État.
Le cannabis.
Je pense qu'il faut absolument réfléchir à ça.
Oui, mais c'est un sujet tabou en France. On n'ose pas. Et alors, je comprends pas Macron qui se veut disruptif, pour reprendre l'expression générale, à la Macronie. Eh bien, ça serait bien que M. Macron, sur ce sujet-là, se montre un peu plus audacieux. Pose au moins le débat. Mais Édouard Philippe, dans son discours politique général, n'en a pas parlé, alors que vous avez raison. Ouais. On a des générations entières qui prend du cannabis. C'est pas seulement un problème des quartiers pauvres. Vous savez comment il y a un lycée prestigieux dans le centre de Paris, on l'appelle la petite Jamaïque. Voilà, donc il faut prendre le problème à bras le corps parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour lutter contre ça, ça ne marche pas.
Et ça mobilise beaucoup de policiers aussi.
Ça mobilise beaucoup de policiers qu'on pourrait utiliser.
Le tabac est en vente libre et on a un effet énorme sur le nombre de cancers.
Catherine, merci de cette dernière interpellation dans le GG. Vous, tiens, je vous envoie un t-shirt. Merci de votre fidélité aux grandes gueules. À très bientôt pour de nouvelles discussions. Catherine, au revoir, bonne journée. Demain, nous serons avec Étienne Liebig, éducateur, Johnny Blanc, chef d'entreprise fromager, David Dickens, directeur marketing, ton copain Johnny Blanc. Et à 11h, nous serons avec Stanislas Guérini, c'est le délégué général La République En Marche. C'est lui qui tient le parti, si vous voulez, les troupes. Et il a toujours son portable qui sonne, parce qu'il y a le boss à l'Elysée qui lui dit bien sûr ce qu'il y a à faire. Mais on parlera avec lui de, ça y est, les nominations et la stratégie des élections municipales pour La République En Marche, l'implantation locale. Donc Stanislas Guérini demain dans le Grand Oral Léger. Monsieur Marty, docteur, ça s'est bien passé aujourd'hui avec les grandes gueules.
Alors quelle ordonnance?
Je pense que c'est un renouvellement d'ordonnance qu'il faudra faire peut-être.
Ah, pas mal.
Mesdames et messieurs, passez une bonne journée et à demain 9h pour 3h de GG, 3h de grande gueule.
RMC, les grandes gueules.